Both the United States and China will have a more prosperous future if we can achieve a level economic playing field. Right now, unfortunately, it is a very one-sided and unfair one. But I don't blame China. After all, who can blame a country for being able to take advantage of another country for the benefit of its citizens? I give China great credit.
Un déficit commercial jugé choquant durant toute la campagne de Donald Trump avec la Chine. Aujourd'hui, dit le président américain, je ne le reproche pas à la Chine. Après tout, qui peut reprocher à un pays de profiter d'un autre pays pour le bien de ses citoyens? L'Asie occupe-t-elle aujourd'hui une place centrale sur la scène mondiale? Invité de cette dernière grande table des idées de la semaine, l'historien Pierre Grosser, pour clore une double séquence asiatique, celle entamée il y a deux semaines avec la tenue du 19e congrès du Parti communiste chinois, qui a reconduit à sa tête Xi Jinping pour un deuxième mandat. Séquence qui se termine en ce moment avec la tournée du président américain en Asie, après la Chine, le Vietnam, puis les Philippines. Spécialiste des relations internationales, auteur il y a 3 ans de Traité avec le diable, les vrais enjeux de la diplomatie au XXIe siècle, Pierre Grosser enseigne à Sciences Po Paris. Il publie aujourd'hui « L'histoire du monde se fait en Asie », un ouvrage paru au printemps dernier chez Odile Jacob, un décentrement du regard et de l'histoire du XXe siècle. En racontant le monde depuis le continent asiatique, il montre son influence de la Première Guerre mondiale à la fin de la guerre froide, et puis on en voit encore aujourd'hui les répercussions, et c'est de cela dont nous allons aussi parler ensemble, remonter le fil de l'histoire pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui et ce qui pourrait arriver demain. Avec vous, Pierre Grosser, bonjour.
Bonjour.
Le poids de l'Asie-Pacifique dans les relations internationales est rarement mentionné, rarement évoqué, et pourtant son influence n'est pas démentie depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Elle tient un rôle discret sur cette scène mondiale, cette région de l'Asie-Pacifique, mais déterminant encore aujourd'hui. Avant toute chose, de quelle Asie parle-t-on, Pierre Grosser ?
Alors on a aujourd'hui un terme qui circule, qui est le terme d'Indo-Pacifique. Ça a été la grande mode depuis quelques semaines de parler de ce terme-là, qui est un terme nouveau. Enfin, ça fait quelques années qu'on l'utilise. Il avait émergé en gros, il y a une vingtaine d'années. En fait, traditionnellement, l'Asie, c'est l'Extrême-Orient, hein, pour la plupart des Européens. Et on utilise aussi ce terme de Far East aussi pour aux États-Unis. Et puis, il y a un autre terme qui est arrivé dans les années 90, qui est le terme d'Asie-Pacifique, qui est un terme assez nouveau, qui était une façon, en fait, au moment où c'était le Japon et les économies asiatiques, hors la Chine qui était en train de se développer, finalement de ne pas être exclu des accords de libre-échange et surtout des investissements qui étaient en train d'avoir lieu intra-asiatiques. Et donc l'APEC, par exemple, c'est Asia-Pacifique. Et donc le terme Asie-Pacifique, c'est une façon pour les Australiens et les Américains de rester finalement dans cette région, car pendant tout le XXe siècle, la grande peur des Occidentaux, c'est de se faire exclure d'Asie. Et donc aujourd'hui, le terme d'Indo-Pacifique, à ce moment-là, on prend aussi l'ensemble de l'océan Indien, notamment en tenant compte de la rivalité entre l'Inde et la Chine.
Et alors, en historien, est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 temps forts de cette histoire du XXe siècle, temps forts dans lequel ou à travers lesquels l'Asie a vraiment pris sa place discrètement mais sûrement sur la scène mondiale et qui expliquerait qu'aujourd'hui, vous ne parlez pas d'émergence de l'Asie mais de réémergence?
Alors, discrètement, pas toujours, parce que l'essentiel des morts du XXe siècle, ça a été en Asie, et notamment après 1945, et aussi, par exemple, les morts américains dans des guerres à partir de 1945, c'était en Asie. C'est seulement depuis 1979 que l'essentiel des morts américains dans des guerres le sont au Moyen-Orient. On se rappelle quand même quelques chiffres assez effarants, hein, par exemple, la grande famine en Chine en 1961, c'est 30 à 45 millions de morts. Les génocides en Asie, quand même, que ce soit au Bangladesh, ou que ce soit au Cambodge, enfin bref, ça a été, quand on parle de guerre froide, en Asie, ça n'a pas été une guerre qui était tellement froide.
Oui, mais là, ce sont plutôt des faits, des événements dramatiques qui évoquent plutôt l'affaiblissement de la région que sa puissance, non ?
Oui, mais par exemple, aujourd'hui, en 2015, il y a eu un grand discours de M. Xi Jinping qui a expliqué que le pays qui était le plus important dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la Chine, qui a combattu plus longtemps, dès 1931 jusqu'en 1945 et qui a eu le plus de morts. Il estime qu'il y a eu plus de morts que l'Union soviétique, ce qui est assez intéressant. Et donc, il replace la Chine dans, finalement, la grande victoire symbolique, si vous voulez, de l'évolution du monde au XXe siècle, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale.
Comment il fait ses comptes, juste ?
Alors, il triche un tout petit peu, hein, sans doute. C'est d'ailleurs, les Russes ont été furieux, évidemment, de ce compte-là. En gros, il prend aussi, disons, l'ensemble des victimes, les blessés, etc., parce que les chiffres, normalement, sont moins importants. Mais ce que j'essaie de montrer dans le livre, notamment sur la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est qu'effectivement, on ne peut pas comprendre l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale si on voit d'un côté le front européen, si vous voulez, le débarquement de Normandie, voir ce qui s'est passé en Union soviétique, qui est peut-être le plus important. Et puis, de l'autre côté, ce que les Américains ont longtemps appelé la guerre du Pacifique. Et la guerre du Pacifique, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'en fait, ça oublie complètement l'Asie. Or, si les Chinois n'avaient pas continué à se battre dans les années 30 et au début des années 40, ça aurait changé complètement le fonctionnement de la guerre, parce que les Japonais auraient pu attaquer l'Union soviétique pendant que l'Union soviétique se prenait les troupes de la Wehrmacht sur la figure. Et de l'autre côté, les Américains, s'ils avaient été obligés de se battre que contre les Japonais, avec des Japonais qui n'étaient pas enlisés en Chine, ça aurait été évidemment beaucoup plus compliqué pour eux. Donc le fait, on dit souvent Churchill, l'Angleterre qui reste, qui accepte de continuer la guerre toute seule, ben les Chinois ont fait la guerre tout seuls contre les Japonais pendant très très longtemps. Donc il faut revisiter aussi l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en fonction de ce rôle, non pas central, je pense que Xi Jinping exagère pour replacer son pays au centre du monde, mais que c'est très important le facteur chinois et dans les origines de la guerre et dans le déroulement de la guerre, évidemment dans ce qui suit ensuite.
Le premier tournant capital, vous le datez même de 1905, en fait.
Voilà, c'est une date absolument fondamentale. Hein, c'est la première grande victoire d'un peuple de couleur, entre guillemets, hein, puisqu'on parlait de cette façon-là à l'époque, sur un peuple blanc. C'était la victoire contre la Russie en 1905. Et ça a complètement changé les équilibres européens, parce que la Russie a été affaiblie, ce qui embête évidemment la France face à l'Allemagne. Et par exemple, le plan Schlieffen, qui est absolument déterminant pour comprendre le déclenchement de la Première Guerre mondiale, a été élaboré parce que la Russie ne comptait plus. Donc les Allemands pouvaient se concentrer sur la France avant de se retourner contre la Russie. Et donc la vraie raison des origines de la Première Guerre mondiale, c'est l'affaiblissement de la Russie et ensuite la remontée en force de la Russie dans un Extrême-Orient dont l'Allemagne était très largement exclue.
Victoire sur la Russie du Japon.
Voilà, tout à fait, en 1905.
Alors, il y a des ombres chinoises, finalement, sur la politique occidentale que l'on croyait purement occidentale. Mais finalement, ce rôle de la Chine était déjà présent, j'allais dire un peu en creux malgré tout. En tout cas,
oui, alors sur 1905, c'est plus le Japon qui était le pays central. Et dans les années 1930, même si, encore une fois, par exemple, on oublie qu'il y a eu une grande guerre entre l'Union soviétique et la Chine en 1929. Hein, évidemment, c'est pas dans les livres d'histoire la plupart du temps. Mais par exemple, dans la guerre froide, nous, on a l'habitude de dire la guerre froide, c'est simple, c'est les Américains contre les Soviétiques. Mais une grande partie de la guerre froide, c'est la rivalité dans le tiers-monde entre les Chinois et les Américains, c'est la rivalité dans tout le mouvement communiste dans le tiers-monde entre les Soviétiques et les Chinois, et c'est la rivalité dans le tiers-monde entre les Chinois et les Indiens. Mais ça, évidemment, on a du mal, si vous voulez, à recentrer notre regard sur ce qui se passe ailleurs, parce qu'on est, notamment en France, très largement sur le Rhin, il faut bien l'avouer. C'est-à-dire tout ce qui se passe sur le Rhin, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et très largement aussi, finalement, la guerre froide. Alors là, c'est un peu plus sur l'Elbe, mais enfin, en gros, c'est quand même le franco-allemand.
À cette période de guerre, de massacre, de famine que vous évoquez au XXe siècle, Pierre Grosser, va succéder ce que vous appelez une sorte de Pax Asiatica en Asie. Et pourtant, aujourd'hui, ça a l'air, ces rivalités intra-régionales semblent être une des forces du continent. Vous évoquez ce syndrome du champ magnétique, l'Asie qui, comme une zone de tension. Cette instabilité n'entamerait pas, au contraire, cette domination du continent, une hégémonie de la Chine notamment, qui se construit à partir des rivalités entre les nations de la région et qu'elle entretient, sur lequel elle s'appuie pour entretenir cette double tension aussi avec le géant américain. Comment est-ce possible ?
Alors, la Pax Asiatica, c'est l'idée que depuis 1979, alors que l'essentiel des morts de guerre, c'était entre 45 et 79 en Asie, depuis 79, il n'y a pratiquement plus de guerre, en tout cas interétatique, la dernière grande guerre étant la punition infligée par la Chine au Vietnam. Et depuis, il y a évidemment tout un tas d'interprétations, comme la paix européenne, hein, d'expliquer pourquoi tout d'un coup, en 45, ben voilà, il n'y a plus de guerre sur le continent européen. Et la grande question aujourd'hui, c'est de savoir si elle est durable ou si finalement, comme certains l'avancent, l'Asie du XXIe siècle va ressembler à l'Europe du XIXe siècle, c'est-à-dire avec l'idée d'une course aux armements, de rivalité entre puissances, que finalement la Chine, ce serait l'équivalent de l'Allemagne, c'est-à-dire cette espèce de puissance qui monte et qui déstabilise le système. Face à l'hégémonie britannique, c'était l'Allemagne. Face à l'hégémonie américaine, c'est la Chine aujourd'hui. Or, finalement, quand on regarde bien, vous n'avez pas tant une course aux armements en Asie. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir que le pourcentage de PNB dépensé par les pays asiatiques pour les dépenses militaires a diminué par rapport à la période de la guerre froide. Aujourd'hui, en moyenne, on est à moins de 2% du PNB. Ça, c'est pas une course aux armements. Donc, si vous voulez, la grande question, c'est qu'on n'arrête pas d'annoncer qu'il va y avoir des guerres avec la Corée, avec Taïwan, la rivalité entre Américains et Chinois, etc. Et que pour le moment, on a l'impression que tout le monde a plutôt envie de l'éviter, de profiter de la prospérité économique grâce à la Chine, tout en ayant des liens de sécurité avec les États-Unis, mais en même temps multipliant les liens avec les Indiens, les Australiens, les Russes, etc., voire les Européens.
Ça tient à quoi, selon vous, que ce schéma de guerre entre puissances ne se reproduise pas pour l'instant, en tout cas ?
D'abord, il y a les leçons de ce qui s'est passé. C'est une chose qui est importante. Et puis, il y a des phénomènes qui sont relativement similaires à ce que nous avons connu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les résultats, par exemple, de la politique de l'enfant unique, eh ben, si vous avez un enfant qui meurt à la guerre, c'est votre dernier. En Europe, une des raisons aussi pour lesquelles il y a déclin de la guerre, c'est que la vie humaine et la vie de votre enfant quand vous n'avez qu'un ou deux, c'est pas la même chose qu'en 1914 ou quand vous aviez 4 ou 5, pas en France parce qu'on avait déjà limité nos naissances, mais en Russie ou en Allemagne. L'idée de la guerre est en train de décliner, et puis surtout fondamentalement, on a l'impression que, si vous voulez, il y a une espèce de vague. Le Japon, en 1945, a fait le choix, au lieu de faire la guerre, de continuer à vouloir conquérir des territoires, de dire on va essayer de conquérir des marchés et surtout d'avoir un dynamique économique très fort. Ensuite, vous avez eu les nouveaux pays industriels, hein, la Corée du Sud et autres, qui étaient au départ dans une logique de guerre, qui se sont concentrés sur l'économie. Et le grand tournant 78-79, c'est quand les Chinois ont fait finalement le même choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, le grand horizon pour la plupart de ces pays, c'est un horizon économique et de prospérité, notamment pour des classes moyennes qui émergent à des vitesses absolument incroyables.
Enfin, vous le rappelez quand même, Pierre Grosser, dans votre introduction manifeste de cet ouvrage Essai de géopolitique, l'histoire du monde se fait en Asie. Aujourd'hui, Pakistan, Inde, Chine, Corée du Nord et Russie sont des puissances nucléaires et le Japon a les capacités technologiques de basculer assez rapidement vers le nucléaire militaire. Ça veut dire que quand même cette région a aussi les moyens de montrer du muscle dans un rapport de force international. En tout cas, elle a de quoi attirer tous les regards. Je ne sais pas si on peut regarder le monde de l'Asie. Ce qui est sûr, c'est que tous les regards du monde sont quand même aujourd'hui aussi tournés vers l'Asie et vers un pays comme la Chine, aujourd'hui, qui, dans sa bataille de leadership avec les États-Unis, s'est donné de la voix.
Alors, deux choses. Sur la question du nucléaire, je rappellerai quand même que le dogme général, c'est que le nucléaire a plutôt amené la paix pendant la guerre froide. Donc si on part de cette idée-là, évidemment, on peut tout à fait estimer que le fait que l'Inde et le Pakistan aient l'arme nucléaire et petit à petit font des arsenaux mieux maîtrisés avec une seconde frappe invulnérable, etc., sera peut-être un facteur de stabilisation. Vous savez que autour de Trump, il y avait un certain nombre de gens, et des gens qui ont soutenu Trump, qui disent la façon de résoudre le problème sans s'encombrer d'alliances, c'est de donner le nucléaire ou laisser le Japon et la Corée du Sud avoir le nucléaire. Ça fera des équilibres nucléaires régionaux. Je suis pas si optimiste, évidemment, que cela, mais, si vous voulez, c'est pas forcément parce qu'il y a l'arme nucléaire qu'il y a la guerre. Alors, maintenant, sur la question de la Chine et la rivalité entre la Chine et les États-Unis, le vrai grand débat, et que vous avez aux États-Unis partout, vous avez en Chine partout, avec des comparaisons historiques, d'ailleurs, qui sont la plupart du temps totalement fausses, mais c'est pas le problème, ce qui est important, c'est qu'on croit qu'elles soient vraies, c'est est-ce que la Chine va être l'équivalent de l'Allemagne, c'est-à-dire le challenger de l'hégémonie dominante, c'est-à-dire les États-Unis aujourd'hui, et donc là, ça peut amener effectivement des cataclysmes absolument épouvantables. Ou alors, est-ce que la Chine, c'est l'équivalent des États-Unis dans les années 20, c'est-à-dire qu'il va prendre le relais de l'hégémonie britannique de façon relativement pacifique, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de guerre entre les Américains et les Britanniques, et les Américains ont remplacé les Britanniques pour être la puissance hégémonique sans aucun conflit, et au contraire, c'est parce que les États-Unis n'avaient pas, après 1919, pris cette responsabilité d'essayer de fixer les problèmes internationaux qu'on est passé de la Première à la Deuxième Guerre mondiale, en passant au passage par la crise économique de 1929.
Et donc, vous croyez plutôt à quel scénario ?
Le deuxième, ou le deux ? J'allais dire, le deuxième.
je pense que imaginer une guerre est devenue maintenant extrêmement difficile, parce qu'on sait à quel point elle pourrait être destructrice, et je crois que justement ce qui s'est passé en 1945 avec les bombardements atomiques a montré ce que pouvait être une guerre. Alors, par exemple, les gens qui rentraient en guerre en 1914 ne pouvaient pas imaginer ce que serait une guerre mondiale qui dure 4 ans. Donc, on sait ce que peut être une guerre atomique. Donc, il y a quand même un certain nombre d'éléments d'autodissuasion pour la plupart des leaders. Mais c'est ça, finalement, la grande question qui est posée à tout le monde, c'est qu'on voit la montée en puissance de la Chine. On est pratiquement sûr que la Chine va prendre le leadership. L'horizon 2049-2050, qui a encore été rappelé par Xi Jinping, c'est les 100 ans de la fondation de la République populaire de Chine et de la fin du siècle d'humiliation qu'avait subi la Chine de la main des impérialistes. Donc, on sait qu'elle va monter en puissance. On sait que technologiquement, elle va nous tailler des croupières, c'est déjà le cas et ça va être le encore plus. On sait que un certain nombre de caractéristiques politiques en termes de droits de l'homme, etc., ça nous convient pas. On sait qu'il y a des surveillances sur la pensée, etc. Donc, et en même temps, on voit pas tellement qu'est-ce qu'il faut faire pour l'arrêter. À chaque fois que vous faites quelque chose, c'est pas vrai, si vous faites un containment comme vous le faisiez pour l'Union soviétique, vous risquez d'abord d'avoir des partenaires qui ont peur de s'aligner sur vous, et d'autre part, vous risquez d'avoir des réactions de la Chine qui seraient pires qu'autrement. Donc on n'a pas de solution. Et à mon avis, c'est ça le gros problème des Américains aujourd'hui.
Est-ce que l'économie, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens, dans l'esprit des Chinois ?
Je pense que ça va avec, hein. C'est-à-dire que la puissance, c'est forcément une puissance économique. Ils sont aussi en train de relire, ils lisent beaucoup d'histoire américaine, et ils aiment beaucoup les théoriciens américains, qui montrent que finalement, ils sont en train de faire la même chose que ce que faisaient les Américains, c'est-à-dire on est d'abord une puissance économique, on devient une puissance militaire, on ne peut être une grande puissance militaire qu'avec une puissance navale, c'est en gros les États-Unis en 1900, et après, on domine une région, donc ils veulent faire leur doctrine Monroe en Asie, en disant, mais vous l'avez fait en Amérique latine ou disons dans les Caraïbes, pourquoi est-ce que nous on ferait pas ça? Donc, ne nous embêtez pas dans notre arrière-cour. Et puis, la dernière étape, évidemment, c'est de prendre les leviers de commandes de généraux. Donc, si les Américains l'ont fait, et que ça serait une loi des sciences politiques, pourquoi pas faire pareil?
Sauf que vous parlez d'un modèle américain. Or, Xi Jinping l'a dit dans le précédent congrès, il faut aussi tenir compte de la tradition chinoise, qui n'est pas tout à fait la même, de retour à un certain équilibre, enfin à l'empire du milieu, qui ne peut pas conquérir le monde de la même façon que l'empire américain. Est-ce que cette dimension-là ne va pas aussi changer un petit peu le scénario?
Non, parce que justement, tout le discours, c'est la réhabilitation de ce mode de relations internationales à la chinoise. C'est tout un discours de dire, par exemple, toute la théorie des relations internationales américaines n'ont pas été à mettre à la poubelle, mais à être nuancée, parce qu'il existe un autre modèle que de faire le balance of power, etc., qui est quelque chose de plutôt destructeur, on l'a vu quand même dans toute l'histoire, et que la centralité chinoise avec la Chine au sommet et une Chine finalement relativement magnanime, eh bien c'est un facteur de paix en Asie, et ils essayent de le prouver en disant, regardez, au 16e, 17e, 18e, il y a eu moins de guerres qu'en Europe, ce qui est en partie discutable, mais je reprends le discours officiel. Et donc, il n'y a pas de raison que, si vous voulez, à l'échelle globale, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Et donc, les relations internationales avec des caractéristiques chinoises, c'est, à mon avis, vraiment l'équivalent du discours de l'hégémonie bienveillante que les Américains ont développé depuis un certain nombre d'années, en disant que, évidemment, ça ne va pas se faire tout de suite, il va falloir du temps, que, évidemment, il va y avoir un certain nombre de pays qui vont être attirés par cela, parce que, encore une fois, ils envoient leur intérêt économique et que la Chine ne rentre pas dans leurs affaires intérieures. Et donc, il n'y a pas de raison que la Chine ne retrouve pas sa stature de grande puissance qu'elle avait finalement dans le passé. Hein, on a vu le débat furtif avec Trump sur Trump qui dit, bah oui, les Égyptiens, ils sont plus vieux que vous, etc. Mais les Chinois disent, bah d'abord, oui, mais enfin, il a pas répondu cette façon, mais dire, mais vous datez de quand, vous, les États-Unis? Mais en gros, ils se disent, de toute façon, on a le temps. Et, encore une fois, on a été dans des positions relativement centrales, plutôt dans la région, mais on a fasciné quand même l'ensemble de l'Europe.
Il a dit aussi, nous, on dure toujours, les Égyptiens, c'est fini.
Il a rajouté ça. Disons qu'il y avait, il y a eu des interruptions, si vous voulez, dans la grandeur égyptienne, effectivement.
Puissance démographique, puissance commerciale, puissance stratégique pour la Chine aujourd'hui, qui à l'horizon 2030 peut-être volera la vedette aux États-Unis, profitant aussi du déclin de l'empire américain, pour reprendre le titre d'un film québécois célèbre, Pierre Grosser. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même aujourd'hui une sorte de front commun, de cause commune entre la Chine et les États-Unis qui expliquerait le revirement rhétorique, en tout cas de Donald Trump en Chine, contre la Corée du Nord? C'est ce qu'on a pu aussi entendre ou comprendre quand Donald Trump est passé par la Corée du Sud et qu'il a une fois encore mis en garde la Corée du Nord, rappelé qu'elle était sous surveillance du regard américain.
Alors, On sait que les Américains aimeraient bien que les Chinois résolvent le problème nord-coréen. On se pose énormément de questions sur l'évolution possible. On guette tous les indices dans des discours ou autres d'une évolution de la position chinoise. Je pense que de là arriver à, si vous voulez, un espèce d'idéal américain d'une péninsule réunifiée, démocratique, dénucléarisée, etc., il y a quand même une distance absolument considérable. Donc la Chine peut être coopérative sur ce dossier, ce qui est une façon... Elle a déjà été, hein, par exemple, quand il y avait ce qu'on appelle les Six Party Talks, c'est-à-dire qu'on discutait à six, hein, les grandes puissances plus les deux Corées, sur la question coréenne. Donc montrer qu'on est une puissance responsable. C'est aussi très important pour être une puissance légitime, hein, de dire qu'on est relativement constructif. Après, ce qui est assez intéressant dans ce voyage et les investissements, par exemple, américains en Chine, c'est qu'on a l'impression de se retrouver un petit peu à la fin des années 80, quand la puissance qui semblait menaçante, c'était le Japon. Et d'ailleurs, une des raisons de la fin de la guerre froide, c'est pas seulement parce que l'Union soviétique a eu des problèmes, c'est que les Américains se sont dit « le vrai problème, c'est le Japon ». Et à cette époque-là, il y avait exactement le même discours sur le déficit commercial. Et la seule différence, c'est quand même que les Américains pouvaient tordre le bras assez facilement aux Japonais parce que c'était des alliés. Mais même en leur tordant le bras, le déficit commercial est resté le même. Et il a fallu attendre 92-93 et la stagnation décennale du Japon pour arriver à une autre solution. Mais il y a eu toute une idée qui a germé, c'est qu'en fait, les Américains pouvaient rester une puissance grâce... aux capitaux empruntés au Japon. Et d'ailleurs, une partie du réarmement de Reagan, il a été financé comment ? C'est en empruntant au Japon, qui était très très riche. Et là, on voit bien qu'une partie aussi de la puissance américaine dépend justement de ces capitaux chinois. Il ne faut pas exagérer non plus, hein, ça représente 7-8% de la dette. Enfin, c'est déjà 7-8%. Une partie du dynamisme industriel américain va dépendre aussi de la Chine. Donc, en fait, on se tient un peu par la barbichette. Et donc, il y a peut-être l'espoir du côté de Trump. C'est qu'en s'appuyant sur la puissance économique chinoise, comme on s'est jadis appuyé sur la puissance japonaise, on allait avoir un nouveau round de grandes puissances américaines. Je ne sais pas si c'est son pari, on ne se parle pas beaucoup avec M. Trump, et lire dans la tête de M. Trump est un défi, mais on a un peu cette impression-là.
Commencez par lire ses tweets.
Mais je le fais régulièrement.
Et qu'est-ce que vous lui conseilleriez ?
À M. Trump ?
Oui.
Je pense que là, il s'est pas trop mal débrouillé. C'est-à-dire qu'il a pas essayé de faire une grande coalition anti-chinoise. Son grand problème, c'est qu'il a à gérer à la fois la Chine et la Russie, où les relations avec la Russie sont extrêmement difficiles. Vous avez un certain nombre de gens à Washington qui sont excités contre la Chine, notamment son ancien conseiller, Monsieur Bannon, des gens qui sont excités contre la Russie, des gens qui sont excités contre l'Iran, des gens qui sont excités par la Corée du Nord. Et donc, le problème, c'est que les Américains peuvent pas être partout, surtout avec leur question économique. Et là, quand on voit ce qui se passe, et que vous avez rappelé au Moyen-Orient, quand même des gros bruits de guerre, est-ce qu'il va y avoir une attaque ou israélienne ou avec l'Arabie Saoudite contre le Hezbollah, ce qui amènerait une guerre avec l'Iran. Le gros problème, c'est que pour faire face à la Chine, il faut pas être empêtré dans le Moyen-Orient. Et je crois que Obama avait cette idée derrière la tête, d'où l'importance de l'Asie dans les relations internationales, c'est-à-dire faire attention de ne pas se laisser absorbé par le Moyen-Orient pour pouvoir vraiment être en position de compétition avec la Chine. L'erreur de Bush, d'une certaine façon, c'est d'être empêtré dans la guerre au terrorisme qui a coûté une fortune. On voit maintenant des chiffres qui commencent à sortir, mais absolument délirants sur le coup. Et je crois que c'était un des éléments d'affaiblissement. On s'est trompé d'ennemi. Et d'une certaine façon, si vous réfléchissez bien, les Anglais, ils sont battus contre les Allemands. Qui est-ce qui en a profité ? C'est les Américains. Et à la fin de la guerre froide, que disait M. Trump ? Eh bien, il disait, on s'est battu contre l'Union soviétique. Qui est-ce qui a gagné la guerre froide ? C'est les Japonais, les Allemands.
Du siècle américain, le 20e, sommes-nous en train de passer au siècle du Pacifique, le 21e siècle, c'est entre autres la question que pose le dernier essai de notre invité, l'historien Pierre Grosser, 13h20 sur France Culture.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Les convictions et les ambitions du secrétaire général du Parti communiste chinois, le journaliste François Bougon, revient dans un livre sur le corpus idéologique du dirigeant chinois. Cet ouvrage vient de paraître, il s'appelle « Dans la tête de Xi Jinping » chez Actes Sud. Écoutons-le.
Le contre-modèle chinois, c'est avant tout une attaque contre les valeurs universelles. C'est ça le cœur de la doctrine de Xi Jinping. C'est attention, le danger, il vient de l'Occident et des valeurs universelles. Les droits de l'homme, le journalisme à l'occidental, la démocratie constitutionnelle occidentale, etc. etc. Et C'est ce qu'on appelle en chinois le roi yuchuan, le droit à la parole. Et en fait, ça va aussi de pair avec la construction d'un discours sur les civilisations. Il y a juste une anecdote. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, à une certaine époque, je crois que c'est en 2013-2014, tout d'un coup, Xi Jinping a repêché Karl Jasper. Un vieux philosophe dont tout le monde avait oublié, qui parlait de l'âge axial, c'est un âge où il y avait plusieurs civilisations, la civilisation indienne, civilisation chinoise, civilisation grecque, etc., etc. Et lui reprend ça en disant, écoutez, il y a des civilisations, il y a la civilisation chinoise, il y a la civilisation grecque, et elle est autant valable que la vôtre. Voilà. Et donc c'est l'affirmation d'une civilisation, d'un corpus culturel très très fort, aussi valable que le corpus occidental avec ses droits de l'homme.
Quel contre-modèle, quelle alternative au modèle démocratique libéral porté par les Occidentaux jusqu'ici, la Chine peut-elle ambitionner à son tour de soulever ou de porter? Que veut la Chine? Autrement dit, Pierre Grosser, est-ce que vous parleriez vous aussi de changement de civilisation? En tout cas, est-ce qu'il y a cette idée-là, comme l'évoque François Bougon, dans le projet de la Chine aujourd'hui?
Alors cette affirmation civilisationnelle est effectivement extrêmement importante et en fait on l'a vu vraiment apparaître après les massacres de la place Tiananmen, où donc il y a eu tout un discours au début des années 90 sur les droits de l'homme à la chinoise, et finalement un certain nombre de pays asiatiques comme la Malaisie, Singapour ont été assez d'accord avec ça, c'est-à-dire l'idée d'une espèce de décadence de l'Occident qui était en difficulté économique, en disant que finalement l'individualisme c'était moins bien que cette approche plus collective des Asiatiques, que le matérialisme crasse des Occidentaux allait creuser leur tombe, et donc il y avait finalement une civilisation asiatique particulière, pas forcément confucéenne, parce qu'il n'y a pas que des confucéens en Asie, bien entendu, mais qui était spécifique. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est exactement à ce moment-là où vous avez un monsieur qui s'appelle Samuel Huntington qui a commencé à parler de choc des civilisations et faire des cartes avec justement des civilisations juxtaposées. Donc je pense que là, effectivement, la première étape, c'est cette affirmation en disant que nous sommes différents pour les Chinois, mais que d'ailleurs, nous ne sommes pas tout seuls, c'est-à-dire qu'un certain nombre de pays qui partagent ces valeurs. Et après, c'est toute la question d'une espèce d'international conservatrice, et on voit bien que ça n'est pas limité seulement à la Chine, et donc cette idée de la limitation par exemple du droit de parole, on la trouve un petit peu en Russie, si mes souvenirs sont bons, et qu'on la retrouve par exemple, on a parlé tout à l'heure du One Belt One Road, cette espèce de grand projet à travers l'Asie centrale, eh bien vous avez un certain nombre de pays d'Asie centrale pour qui ça ne pose pas des problèmes absolument considérables, qui sont aujourd'hui en train de contrôler les ONG, contrôler la presse, etc. etc. Donc c'est quand même un modèle qui, pour un certain de pays autoritaires, est plutôt attractif.
C'est un modèle qui ne se veut pas universaliste, lui, contrairement au nôtre. C'est ça la différence, finalement.
Il se veut. Enfin, moi, je pense qu'il y a un discours quand même à deux temps. C'est-à-dire que quand même, à partir du moment où il est supérieur et que tout le monde considérera comment qu'il est supérieur, eh bien, on pourra en être très largement inspiré. Mais c'est dans un deuxième temps.
Et quelles sont les valeurs positives de ce système?
D'abord, que c'est un système qui marche. Je vous rappelle que quand même, à partir du moment où vous avez un système qui marche, c'est quelque chose qui est important. C'est un système qui est respectueux de la hiérarchie. Surtout, c'est un système qui amène de l'ordre. Je pense que ce terme de l'ordre est vraiment absolument fondamental en Chine, notamment pour cette génération de dirigeants qui a connu la révolution culturelle et donc tous les bouleversements maoïstes.
Et l'individu?
C'est assez secondaire. C'est assez secondaire.
Et puisque beaucoup craignent aujourd'hui aussi un nouvel impérialisme chinois, si on se dit que demain peut-être la Chine tiendra la direction, la conduite des affaires du monde, où le mènera-t-elle ce monde ? Pierre Grosser, pour vous.
Ouh là, ça vous pose des questions non, particulièrement.
Vous parlez d'ordre, quel serait le nouvel ordre international à la chinoise?
Alors, tel qu'il est décrit, c'est très largement donc un monde qui reste finalement relativement westphalien et donc en fonction de la charte des Nations Unies. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que finalement, c'est eux qui se présentent comme les défenseurs de l'ordre international par rapport aux Occidentaux qui, au nom justement de l'exportation de la démocratie, des interventions humanitaires, etc., ont finalement inventé un espèce de monde post-westphalien qui était en contradiction, d'après eux, avec la charte des Nations Unies. Donc aujourd'hui, ceux qui sont les plus westphaliens, notamment parce qu'ils ont un souvenir d'impérialisme, ce sont les Chinois et un certain nombre de pays asiatiques, notamment les pays de l'ASEAN. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aurait un monde d'État, nation, ça, ça pose absolument aucun problème, c'est quelque chose de traditionnel. Mais en même temps, il y a une vraie hiérarchie dans ces États-nations, et le pays qui serait au sommet, à la fois pour donner des ordres, pour investir, et pour donner le là aussi en termes de valeurs, ce serait la Chine.
Au sommet ou au centre,
pas les deux.
Parce que c'est cet empire du milieu qui...
Oui, mais c'est ça, mais l'empire du milieu, c'est vous êtes au centre. Oui. Parce qu'évidemment, la géographie était quand même tournée de cette manière-là. Et puis, d'autre part, vous êtes au sommet, c'est-à-dire que vous avez le fameux kowtowing, on va se prosterner devant la Chine pour reconnaître, par sa vertu, encore une fois, c'est une domination normalement par la vertu. C'est-à-dire ça marche mieux et il y a une certaine magnanimité, notamment par exemple quand on gagne une guerre, on ne va pas complètement écraser un pays ou le conquérir, etc. C'est vraiment et par exemple, on parlait tout à l'heure de 1945, les Chinois battent les Japonais, il y a une magnanimité de la part de Chiang Kai-shek qui n'a pas demandé de réparation, et qui n'a pas voulu participer à l'occupation du Japon. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui a fait que les rapports entre Taïwan et le Japon après 1945 ont été finalement assez vite apaisés.
Donc la question posée par nos amis du grain à moudre à leurs invités le mois dernier, faudra-t-il déménager le siège de l'ONU à Pékin? Vous répondez oui, Pierre Grosser.
Si effectivement ça leur convient, ils resteront à New York. En revanche, si ça leur convient pas, ils le mettront ailleurs. Et d'ailleurs, je vous rappelle que, et j'en parle dans mon livre, dans les années 60, au début des années 60, avec les Indonésiens, ils ont eu l'idée de faire pratiquement une ONU alternative. Mais une ONU révolutionnaire, parce que, à ce moment-là, déjà, la Chine se plaçait au centre du monde. Mao, c'est vraiment, et c'est pour ça qu'il y a eu cette bagarre avec l'Union soviétique, était persuadé que la Chine avait quelque chose à apporter au monde et que tout le monde devait finalement regarder vers le grand timonier et lire le petit livre rouge qui s'est vendu à 1 milliard d'exemplaires, ce que je souhaite à mon livre, bien entendu.
Et nous vous le souhaitons aussi. Dernière question quand même, qu'est-ce que la Chine a apporté au monde, va savoir, mais qu'est-ce qu'elle a apporté à l'Europe? C'est-à-dire que si on décentre le regard, on a beaucoup parlé du rapport entre États-Unis et Chine aujourd'hui, voire entre États-Unis et Asie. Mais si on regarde d'Asie l'Europe, si on décentre notre regard comme ça, que pèse l'Europe aux yeux de l'Asie?
Alors pour le moment, aux yeux de la Chine, elle ne pèse pas énormément. C'est d'abord parce qu'il n'y a pas de politique chinoise commune. Il y a beaucoup eu d'interventions récemment, notamment en Allemagne, pour demander qu'il y ait une politique chinoise commune. Mais on a beaucoup de mal à avoir ça.
Donc dans le monde de demain, nous ne pèserons rien?
D'abord, on ne sera pas très jeune, et il faudra le rappeler. Et puis d'abord, on aura beaucoup de touristes chinois qui vont regarder ce qu'on fait. Alors sauf si évidemment ils le copient et ils le font à identique en Chine, ce qui commence déjà un petit peu à exister. Évidemment, en termes économiques, nous sommes encore intéressants pour la Chine. Il y a beaucoup d'investissements depuis 2 ans en Europe, avec évidemment toute cette question, c'est quand on veut faire des affaires avec la Chine, c'est qu'on accepte des transferts de technologies importants. Et donc notre fameux Airbus, peut-être d'ici 10, 15 ans ou 20 ans, on aura une grosse concurrence, comme dans tout un tas de domaines. Et donc, si vous voulez, le vieux rêve qui est encore, à mon avis, dans la tête d'un certain nombre de gens, c'est-à-dire que nous, en gros, on va donner des ordres, on va conceptualiser, on va avoir les petites mains chinoises qui vont fabriquer. C'était comme ça qu'on pensait la mondialisation au début des années 90. Je pense que ça ne fonctionnera pas de cette manière-là. On n'est pas encore la périphérie de la Chine, mais on risque de le devenir.
Bien voilà, c'est dit. Merci beaucoup Pierre Grosser. L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle. Votre ouvrage essai historique apparu chez Odile Jacob. Merci à vous.
Merci à vous.
Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table pour cette semaine. À vous d'abord aussi Antoine Mercier, même si vous ne faites pas officiellement partie de l'équipe. Vous nous assistez, accompagnez tout au long de la semaine et je vous en remercie. Merci à la préparation et programmation à Claire Maillot et Chloé Leblond, à Clémence Marie et Henri Leblond. Blanc, avec l'aide précieuse de Bertie Bourdon et de Maxime Morin. La réalisation aujourd'hui, Liscom avec Myriam Guyot. Très bel après-midi à tous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la Grande Table sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous écrire et réécouter cette émission. Lundi, dans la première partie de l'émission, on parlera Tchekhov qui fait son grand retour sur la scène de plusieurs théâtres de France. Et dans la deuxième partie de l'émission, il sera question de la haine 2 ans après les attentats du 13 novembre avec nos invités. Très bon week-end à tous.